Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show. Foot Time Show.
Allez, bonjour à tous et bienvenue sur RKS dans votre émission le RKS Foot Time Show. Depuis la semaine dernière, vous l'aurez compris, c'est 100% foot professionnel, débat, ragots, infos, bonne humeur sont au rendez-vous. Je suis accompagné de mes deux compères, Kevin, votre animateur de l'émission Rien à foutre. On a découvert un vrai boudeur d'une mauvaise foi incomparable dès qu'on parle de foot italien. Salut Kevin.
Salut Melvin, salut à tous. Et je ne suis absolument pas de mauvaise foi, je suis le seul qui soit vraiment objectif dans cette émission, je le précise.
Ça y est, on va devoir arrêter l'émission d'aujourd'hui tout de suite. Avec nous également depuis une semaine, Pierre, tout juste papa, pour la troisième fois un chambreur international et on l'a découvert aussi un peu poète. Salut Pierre.
Salut, ça va?
Moi je suis jaloux, tu as fait une belle présentation pour
ouais,
lui.
En fait, je m'attendais.
Bah, en fait, c'est l'émission, c'est Melvin et les Melvin, Pierre et le connard quoi. Super.
Ouais, il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout.
Voilà,
bon, vous l'aurez compris, c'est en notre compagnie que vous allez vraiment vivre une heure 100% foot de folie. Le sommaire d'aujourd'hui, on va parler tout d'abord de Duga, hein, de son coup de gueule, de son arrêt de la radio. On parlera aussi du mercato et puis de ce transfert d'Osimhen. En deuxième, on parlera de Cavani, également après de Grisou, les pronostics de la LDC parce que c'est l'actu de cette semaine. Et on finira par notre petit quiz que nous a concocté Pierre. Allez, on commence tout de suite, on va parler de Duga. Duga, ça y est, son aventure radio est finie, son aventure télé est finie. Ça se finit sur un coup de gueule, sur des frasques. Messieurs, j'ai envie d'avoir votre avis parce que c'est un personnage quand même assez emblématique de ces dernières années.
Ouais, c'est vrai que Duga, c'est un personnage qui a pris quand même de la place dans le paysage médiatique footballistique. Moi, j'ai toujours aimé Duga parce que j'aime les personnes qui n'ont pas forcément leur langue dans leur poche. Reste une question, est-ce qu'il faisait exprès des fois d'être autant à l'extrême ou est-ce que ça fait partie du personnage? Je pense que quand même oui, enfin moi en tout cas c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Après j'aime bien parce que je trouve qu'il a des belles valeurs entre guillemets footballistiques, il aime le beau jeu. Ça n'a jamais été un grand joueur, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il a toujours été meilleur consultant que joueur. Et je trouve que c'est dommage.
C'était pas compliqué. Hein.
Non, c'était pas compliqué, c'est sûr. Mais je trouve que c'est dommage qu'un joueur comme lui, enfin qu'un ancien joueur comme lui et consultant arrête parce qu'ils sont pas beaucoup à dire les choses franchement. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire.
Et toi, Pierre, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, écoute, je suis pas d'accord avec Kevin. J'aime pas forcément ce personnage, j'aime pas ce monsieur, j'aimais pas le joueur, j'aime pas. Alors oui, je suis d'accord avec Kevin. Parfois, il y a un vent de fraîcheur quand tu l'écoutes parce que il prend un peu le contre-pied des autres. Après, c'est quelqu'un pour moi, c'est un faux modeste. Ça, je déteste déjà en tant que personne, en tant que joueur. Il y avait une interview il y a quelques semaines où il disait. Quand j'étais jeune, et puis ça a toujours été, et ça l'est encore aujourd'hui, j'ai toujours été du niveau de Zinedine Zidane. Voilà. Il faut
mais
le savoir.
Possible.
Non, mais il faut le savoir.
Ah non, c'est pas possible.
Si, on a déjà vu des personnes, des joueurs qui étaient très forts étant jeunes, à qui on prédisait le meilleur avenir et qui ont fini en D4 turc. Hein.
Ouais,
enfin,
mais,
je grossis le truc, mais c'est vrai.
Mais tu l'écoutes, oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu l'écoutes, il dit que bon, quand il était jeune, il était toujours le meilleur avec Zidane. Zidane faisait la première mi-temps, lui faisait la deuxième. Qu'ils avaient la même aisance technique, la même capacité, le même potentiel, et que la seule chose qui a fait que ils n'ont pas eu le même destin, il dit que c'est un peu de mental et puis un peu de travail, que lui, pour lui, il n'était pas à la base fait pour être footballeur professionnel, il aspirait à d'autres choses, et puis que c'est qu'à 14-15 ans que tardivement il s'est dit pourquoi pas moi, mais que ça n'a jamais été une vocation chez lui ni un objectif, et qu'il s'est retrouvé là un peu par hasard,
oui, c'est
et
vrai.
Puis la vie a fait que il a eu la carrière qu'il a eue. Mais quand je l'entends dire, j'ai le même niveau que Zidane et j'aurais pu faire aussi bien que lui, je ne l'ai juste pas voulu. Moi, ça, franchement, c'est épidermique. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Un peu comme quand Griezmann dit « je m'assois à la table aujourd'hui des Messi, on en parlera tout à l'heure,
oui,
et des Ronaldo ». C'est un truc, c'est pas possible.
Oui,
quoi.
Je suis d'accord.
Enfin, je veux dire, à un moment, moi, ça me fait gerber.
Pour toi, pour toi, il a le boulard, quoi.
Ah oui, non, mais il a le boulard. Il a le boulard. Et puis, il s'écoute aussi parler. Il y a des moments, je suis d'accord, mais dans ses prises de parole à la radio, il y a des moments où il s'écoute parler, le monsieur. Enfin, bon. Je sais pas.
Moi je trouve il est allé loin dans certaines caricatures, que ça soit sur Messi dernièrement, ce qu'il a fait. Il va quand même loin par rapport lui à la carrière de joueur qu'il a eu.
Mais alors après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand t'as pas une carrière de joueur du niveau de Zidane, t'as pas le droit de t'exprimer. Je pense que des fois, il a eu un petit peu un délit de sale gueule qui était pas justifié. Alors après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui, mais est-ce qu'on a besoin à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un de dire oui, mais toi, t'as pas été bon au foot, alors t'as pas le droit de parler? Mais c'est faux. Enfin, c'est n'importe quoi. Ou alors moi, j'arrête aussi de faire rien à foot et j'arrête de faire cette émission parce que j'étais nul. Donc je trouve ça vraiment nul de lui reprocher des choses via son niveau footballistique. On a le droit de dire qu'il n'a pas été très bon. Bon, il n'empêche que moi, j'aurais bien aimé gagner la Coupe du Monde et jouer au Barça, au Milan.
Moi aussi.
Voilà. Mais bon, après, on parle de caricature. Oui, je pense que ce qu'il disait sur Messi ou ce qu'il a dit à un moment aussi sur Giroud, qui avait fait pas mal de polémiques, c'était de la caricature. Mais des fois, on tombe tous un peu dessus. C'est-à-dire, c'est facile, des fois, pour illustrer un propos de tomber dans la métaphore et dans la métaphore violente pour faire vraiment le buzz ou pour vraiment montrer qu'on est vraiment en colère ou pas d'accord. Moi, ça m'arrive très fréquemment. Et c'est pas, l'idée, c'est pas de dire, bah tiens, on critique les autistes ou etc. ou on est volontairement méchant. C'est juste pour dire, bah, c'est de la passion, quoi. Donc lui, c'est sa manière de s'exprimer, c'est comme ça. Ça fait un peu le charme de ce consultant. Après, il a le boulard, c'est vrai. Des trucs qu'il a dit, il n'est pas obligé de les dire. Pour moi, quand tu es champion du monde et quant à la carrière qu'il a eue, quand on regarde sur le papier ce qu'il a fait, les clubs par lesquels il est passé, on n'a pas besoin de dire j'ai été au même niveau que Zidane, et ben moi j'ai gagné une Coupe du Monde, et ben moi j'ai. Et c'est vrai que ça, c'est dommage.
C'est ça que je le reproche, moi. C'est qu'à un moment, il a eu la carrière qu'il a eue, il fait peut-être partie des 1%, si ce n'est même des 1 millième de joueurs qui ont eu ce niveau-là. Après, pour autant, il y a un moment, accepte d'être à ton niveau, tel que tu l'as été, et arrête de te voir plus beau que tu ne l'es. Et c'est ça, en fait, entre guillemets, qu'à un moment, il gratine sa personne, parce que sinon, sur le principe, c'est pas un mauvais gars. Mais bon, après, sur le reste, ça reste encore une fois un beau footballeur, un consultant de son niveau, il fait partie d'une élite. Après, faut qu'il arrête de se voir plus beau qu'il ne l'est déjà. C'est un bon consultant, bon joueur, mais ça en reste là. Voilà, point barre.
Et justement, pour conclure cette parenthèse, quel est son avenir à Luga? Est-ce que finalement c'est un ras-le-bol? Il va faire une année sabbatique, il va revenir, il va se consacrer à autre chose parce qu'il est encore jeune?
Bon, on verra. Je pense qu'il va prendre beaucoup de recul pendant un moment. Alors, il n'est pas improbable que certains aillent lui demander 2-3 fois son avis, parce que je pense que certains vont vouloir un petit peu de buzz. Je pense qu'on le reverra quand même pas de si tôt. Peut-être qu'il reviendra, il ressurgira pour l'Euro de l'année prochaine. Moi, je le vois bien comme ça, peut-être.
Ouais, je sais pas. Après,
c'est pas faux.
Pour rebondir un peu sur ce que je disais juste avant, d'ailleurs, et puis ça répondra peut-être aussi un peu à ta question. Lui, c'est pas un mec qui à la base est un amoureux du football. Hein. Il est arrivé là il a fait un peu de foot et puis arrivé à 14 ans, il se débrouillait pas trop mal. Et quand je l'ai entendu dire le foot me fait gerber, et ben en fait j'ai un peu l'impression d'avoir un mec qui est pas forcément passionné de base, mais qui est juste bon et qui à un moment a déjà trop donné.
Il a pas dit le foot me fait gerber, il a dit le monde du foot.
Le monde du foot
me fait un peu gerber. Et je dois avouer que même si moi le monde du foot me fait pas gerber, des fois il me met bien le seum. Comme on aime dire des fois.
Ouais, mais tu vois, quand t'es passionné, quelque part, parfois t'es capable de passer au-dessus, et c'est peut-être ça qui lui manque. Il a peut-être une flamme qui n'est pas éternelle pour le football, comme
peut-être,
peuvent l'avoir
peut-être,
d'autres.
Peut-être.
Mais pourquoi je vous dis ça aussi, messieurs, c'est que c'est quand même le plus gros salaire de consultant. Hein.
Ouais, bah écoute, comme ça, RMC fera des économies.
Ah, mais regardes, c'est pareil, dans la télé-réalité, c'est ceux qui font le plus de bourdes qui sont le plus médiatisés. Hein. Regarde Nabila.
Regarde Hanouna.
Ah, c'est ça. Alors là, on a tout envoyé là pour les références.
C'est des grosses références télévisées hein, là qu'on a envoyées quand même. Hein.
Christophe Dugarry est-il au foot ce que Hanouna est à la télé? Vous avez 2 heures.
Ou ce que Nabila est sur la télé-réalité.
Messieurs, on va clore cette petite parenthèse sur Dugarry. On va passer à l'actu tout le temps de l'été, c'est le mercato. Avec quelques délires qui se passent du côté de Lille, hein, parce qu'on va parler notamment d'Osimhen avec une somme assez astronomique et une plus-value qui est extraordinaire pour le club lillois. Messieurs, ce mercato est animé, mais en même temps, il n'y a pas pour l'instant de grands changements, de grands bouleversements dans les grosses écuries.
Ouais, bah, il fallait s'y attendre, hein, il fallait s'y attendre avec ce qui vient de se passer au niveau de la crise sanitaire et économique. on savait très bien que ce ne serait pas le plus grand mercato. Alors, Osimhen, j'ai lu hein, que ce n'était pas encore fait. 81 millions, c'est ce qui se profile. Après, il y a eu un changement là, d'agent de dernière minute, donc ce qui remet encore un petit peu à mal pour le moment l'évolution des négociations, parce qu'on sait très bien que les agents jouent une part prépondérante, même en termes de transactions financières. Ils prennent forcément leur quote-part. Donc pour le moment, apparemment, c'est un petit peu en stand-by. C'est historique pour Lille, mais ça l'est aussi pour Naples, hein, qui va enregistrer, si ça se fait, son plus gros transfert. Je trouve que c'est aussi dans la continuité de la saison pourrie qu'ils font cette année. Ils doivent se renforcer, ça c'est un fait. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau offensif, ils sont loin d'être ce qu'ils ont pu l'être par le passé. Donc ils ont besoin de toute façon de soutien à ce poste. Et donc pour moi, Osimhen sera une bonne pioche. Mais c'est pas encore fait, restons prudents. On l'a vu à l'image de Werner qui devait aller à Liverpool et puis qui en dernière minute est parti sur un autre club. C'est pas encore fait, mais je pense que ça se fera.
Je vois quand même mal Naples se faire doubler sur une somme pareille par un autre club. Je vois pas qui peut mettre aujourd'hui 90 moi millions aussi. D'euros sur Osimhen. Moi, je trouve que le montant, il est ultra exagéré. Si on avait fait cette émission un an avant et qu'on aurait parlé du transfert de Pépé, je t'aurais exactement dit la même chose. C'est que
80, c'est la Pato Campos.
80, ouais, non, c'est Campos, pas
Campos, pardon. Ouais.
Mais si on, enfin, sur un joueur qui a un an à un très bon niveau et encore, il marque ouais. 15 buts, 16 buts, 17 buts peut-être cette saison, je
ouais,
sais
il
plus.
Marque 18 buts, je crois.
Ouais, il marque 18 buts, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une saison. Derrière.
Oui, il sort de nulle part. Hein.
Derrière, on ne sait pas ce que ça va être. Moi, je suis quand même partisan. Alors, tant mieux pour Lille, hein, parce que Lille a toutes les raisons qui sont bonnes pour le faire partir, parce qu'à ce prix-là, peut-être qu'ils ne le vendront qu'une fois. Hein. Donc, tant mieux pour Lille. C'est plus du côté de Naples où je me dis, miser sur un tel joueur, miser une telle somme. Naples, ce n'est pas Manchester City. Hein. Ils n'ont pas non plus les ressources illimitées. Ils ont de la trésorerie parce qu'ils ont très bien vendu certains joueurs et ils n'ont jamais vraiment beaucoup dépensé. Mais moi, je trouve que c'est quand même un gros risque qui est pris. Ça reste un joueur jeune, prometteur. Il va découvrir un championnat pour lequel il n'a jamais joué, avec les caractéristiques qu'on lui connaît, c'est-à-dire un championnat quand même assez fermé, et pas évident pour les attaquants, surtout pour les attaquants peu expérimentés. On se rend compte qu'en Italie, ce qui fonctionne beaucoup, c'est les attaquants qui ont beaucoup d'expérience. Tu regardes la moyenne d'âge du meilleur buteur de Serie A sur les 10 dernières années, il y en a beaucoup. Qui avait plus de 30 ans. Oui, à l'image de cette année, Immobilier a 30 ans. Cristiano, il a 35 ans. Et l'année dernière, Quagliarella avait 36 ans. Luca Toni a été meilleur buteur à 36 ans aussi. Enfin bref, on peut tous les faire. Hein. Mais ça a été. C'est un championnat, je pense, qui va être difficile pour lui. Et je suis extrêmement sceptique. Je trouve que le montant est hallucinant. Quoi. J'arrive pas à comprendre ce montant.
Bon. On verra bien ce que va devenir Osimhen. En tout cas, ça serait une grosse perte pour Lille pour la saison prochaine.
Ouais, mais à 4 millions d'euros, t'en rachètes deux des joueurs. Hein. Enfin,
ouais,
même 3,
mais
hein.
C'est un on peu la d'accord. limite. Moi, j'aime pas parce que ça va à l'encontre de la logique sportive. Alors, on me dira que maintenant, le football est avant tout devenu une économie plutôt qu'un sport, mais bon, moi ça me rend triste. C'est un peu à l'image de l'Ajax qui s'est fait piller, de l'Atalanta qui va se faire piller, de Monaco qui s'était fait piller.
Pas sûr que l'Atalanta se fasse piller.
Bah, on verra, écoute, mais je pense qu'il y en aura au moins deux ou trois qui vont partir. J'ai vu, je crois que c'est le vice-président qui le disait. Il sait très bien qu'il va être attaqué de toutes parts par tous les clubs européens.
Oui, à la différence, je dis pas que tu as tort, Pierre, mais j'ajoute juste une donnée qui est différente avec que Lille et Monaco ou l'Ajax. C'est que l'Atalanta n'a pas beaucoup de jeunes joueurs prometteurs à différence de Monaco à l'époque ou de l'Ajax l'année dernière. Ce qui fait l'Atalanta, c'est énorme. Peut-être que ça générera des intérêts pour des joueurs, mais qui sont déjà quasiment tous dans la force de l'âge. Zapata, il a 28-29 ans. Papu Gomez, il a 32 ans, je crois. Voilà. Après, il y a peut-être Pazalic, oui, et Freuler. Qui peuvent être des joueurs à forte plus-value, mais je vois pas l'Atalanta entre guillemets
ouais,
se faire piller de la
même manière. Tu abîmes un collectif dans tous les cas, t'en enlèves deux.
Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ça est comme ça depuis la nuit des temps.
Et c'est un peu triste là où entre guillemets le Paris Saint-Germain l'année dernière ils font une saison en demi-teinte et où tu te dis mince, Neymar il a été blessé, on aurait bien aimé voir sur une saison pleine un Neymar et un Mbappé. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui ont les moyens financiers de garder ces joueurs là.
Ah oui,
et pour le plaisir des passionnés, j'aurais aimé et j'aime. J'aimerais voir par la suite des clubs comme l'Atalanta, comme l'Ajax, pouvoir garder leurs joueurs pour pouvoir voir dans la durée ce que ça peut donner. Comme ça a pu l'être il y a 20-30 ans, quand des étoiles comme quand d'autres équipes ont réussi à gagner la Ligue des Champions.
C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, Pierre, et intéressant de la part d'un supporter du Paris Saint-Germain qui a envie justement que des clubs comme ça arrivent à garder les joueurs. Ces clubs-là, ils ne peuvent pas garder les joueurs parce qu'il existe des clubs comme le Paris Saint-Germain, comme City, comme Chelsea. Des clubs qui ont
comme le Real, le Barça.
On ne va pas tous les citer, mais on voit bien d'où je veux en venir. Des clubs qui ont des ressources illimitées et qui se posent pas la question sur le montant qu'il faut mettre sur un joueur, qui peuvent mettre tous les ans 100-150 millions d'euros minimum sur le mercato. Et tant qu'il y aura des clubs comme ça qui vont exister, et tant que le gap entre les clubs moyens plus comme l'Atalanta, ou même moyens, parce que l'Atalanta c'est le budget de Saint-Étienne, hein, d'accord, tant que le gap sera aussi haut, et de toute façon il n'est pas parti pour se rétrécir ce gap, cet écart. Donc il ne peut pas y avoir aujourd'hui de justice ou de logique sportive, parce que ces clubs-là, ils ont tout intérêt à vendre leurs joueurs avec des plus-values énormes pour équilibrer leurs comptes, pour se donner un petit peu d'air, parce que c'est des clubs où le moindre euro est calculé. Et face à des clubs qui n'ont aucune limite et qui tuent effectivement un petit peu ça, bah, tu ne peux pas, c'est fini. Donc revenir sur un modèle d'il y a 30 ans, ça n'arrivera pas. Enfin, moi, j'aimerais bien, hein, parce que ça me plairait énormément. Mais ça veut dire que demain, il y a plus de PSG, enfin du moins on n'autorise plus les Qataris ou les Russes ou les Chinois ou qui de droit à racheter des clubs et à mettre des millions, des milliards sans que personne leur dise rien. C'est compliqué.
Bah, je pense que pour enrayer tout ça, il y aura à terme aussi l'évolution des droits TV qui vont avoir un impact direct sur la capacité financière de certains clubs. Et on l'a vu avec Lyon, et Olas avait fait une intervention il y a quelques années en disant aujourd'hui, avec le nouveau stade, un club comme Lyon pourra refuser des offres à 50 millions. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant, parce que forcément, ça va te perdre. Du moment où, entre guillemets, ta capacité financière augmente, même des clubs comme le FC Nantes, qui était passé à 100 millions de budget, commencent à pouvoir dire non à des clubs, à des offres à hauteur de 15-20 millions. Lille commence à le faire sur des clubs, sur des joueurs à 30-35 millions.
Oui, tu vas dire non à 15, ils vont te proposer 20. Tu vas dire non à 20, ils vont te proposer 30, 40. Et à un moment, tu ne pourras plus dire non.
Kevin, pas sur tous les joueurs.
Sur les meilleurs. Sur les meilleurs,
oui, mais
ça sera
meilleurs,
toujours le cas.
Les meilleurs, pas à 30-35.
Bah oui,
pas à 30,
mais c'est ce que je te dis, c'est qu'à mon avis, c'est des clubs comme que tu cites, comme Nantes, comme ils peuvent pas garder.
Ils pourront pas lutter.
Ils pourront pas lutter. Même Lyon ne peut pas lutter. Demain, t'as quelqu'un qui arrive et qui met 90 millions d'euros sur Dembélé, mais Olas, s'il lui paye le billet, il le fait partir. C'est pareil. Aouar, c'est le même discours. Ça a été pareil pour Ndombélé la saison dernière. Lyon, Olas, il a toujours fonctionné comme ça. Puis en plus, avec la saison qu'il fait cette année, il va pas avoir les mêmes rentrées. Donc forcément, Lyon peut peut-être avoir plus de latitude que l'Atalanta, que Nantes, etc. Parce qu'il y a un peu plus de trésor derrière. Mais il y a toujours un prix que tu peux pas refuser. Et quand tu as des bons joueurs, prometteurs en plus, bah c'est compliqué.
Et là-dessus, je suis admiratif d'un club, c'est le Bayern de Munich. Je me demande comment il fait, ce club. T'as l'impression que ses joueurs sont jamais attaqués, jamais convoités. Pourtant, ils ont de belles équipes, hein, mais t'as l'impression que les clubs ne se risquent pas à aller taper à la porte du Bayern de Munich.
C'est un club puissant, tu peux pas comparer le Bayern et Lyon.
Non, mais je suis d'accord, mais regarde, le Paris Saint-Germain est souvent attaqué.
C'est une institution.
Mais parce que
ils ont des contrats en béton, c'est un grand club.
Oui. C'est déjà parce que là tu fais le parallèle avec le Paris Saint-Germain, la différence c'est que les joueurs qui signent au Bayern de Munich, ils signent pas que pour l'argent, ils signent parce que c'est un grand club historique. Mais si,
il
faut arrêter. Peut-être dans 20 ans les gens signeront au PSG parce que le PSG tout le monde aura oublié qu'il y avait Paoletta et Amara Diané.
Il y a plein d'autres facteurs, tu peux pas. Compare aussi les villes. Enfin, va à Munich, va à Paris. Pour n'importe quel jeune qui a entre 20 et 30 ans, c'est pas quand même la
mais
même approche.
Les footballeurs,
approche,
ils s'en foutent.
Mais
ils vont pas signer à Paris parce que c'est beau Paris.
C'est un tout,
sinon,
c'est
pourquoi
un
ils
cadre.
Vont en Chine maintenant ? Je suis désolé.
Pourquoi les joueurs ne vont pas en Chine ? Je te pose la question.
Il y en a plein qui y vont.
Et pourquoi ils n'y vont pas, ceux qui n'y vont pas ? Parce qu'il y a 99% des joueurs qui refusent.
Ils refusent parce qu'ils veulent pas jouer dans un championnat pourri. Heureusement, la France, c'est pas un championnat top, mais c'est pas un championnat pourri non plus. Donc, c'est aussi un petit peu pour ça. En Chine, t'as pas la Ligue des Champions. En Chine, t'as aucune visibilité. Le championnat n'est pas rediffusé en France, par exemple, et en Europe. Donc c'est pour ça. Si tu peux pas tout comparer non plus. Mais pour moi aujourd'hui, soit le rachat du PSG est trop frais encore, et parce que c'est pas un club qui a construit pour l'instant, comme on disait l'année dernière, une institution forte, une histoire forte, une âme. C'est ça aujourd'hui.
Non mais les gars, il y a eu une période entre le avant le rachat de KSI et aussi une période avant les errances du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Il y a eu l'époque Ronaldinho, il y a eu toutes ces époques où il y a eu des bons joueurs qui sont passés au Paris Saint-Germain. Des joueurs comme Ronaldinho ont envoyé un signal fort à toute l'Europe. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en centre de formation, qui ont vu des prouesses de joueurs comme celui-ci. Il y aura l'époque Zlatan aussi, l'ère Zlatan, qui a marqué aussi le Paris Saint-Germain et qui a envoyé aussi une image au monde entier sur ce qu'est le Paris Saint-Germain et sur ce que le Paris Saint-Germain veut devenir. Moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, au moment où on se parle, les jeunes qui ont 16, 17, 18 ans peuvent rêver du Paris Saint-Germain,
oui,
comme on peut rêver du Real Madrid, comme on peut rêver de Liverpool ou d'un autre club.
Pas autant. Tu vas commencer à faire rêver ces joueurs-là, ces jeunes-là. Tu vas commencer à les faire rêver parce que ton histoire, elle est récente et parce que effectivement les gens, les jeunes qui arrivent et qui ont 20 ans, ils ont connu Zlatan petit et ils ont regardé Zlatan et le PSG avec des yeux d'enfant et ça marque effectivement, mais ça commence tout juste pour arriver au point du Barça, du Real, du Bayern, je ne vais pas tous les citer encore une fois,
on
mais
y sera pas.
Voilà, il faut du temps. Le Real n'est pas devenu le Real en 2012. Et le Real est le Real depuis 1900 ou 1920, allez, 1950 peut-être, parce que ça a commencé avec peut-être Di Stefano. Voilà. C'est pareil pour tous ces autres clubs. Donc ça prend du temps aujourd'hui. Le jour où le PSG gagnera la Ligue des Champions, ils franchiront encore un cap au niveau notoriété. Ils commenceront à être perçus autrement que par un club qui est très puissant financièrement et qui a des grosses ambitions. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais pour l'instant, tu peux pas comparer l'aura du PSG avec l'aura du Bayern, du Real, du Barça et des autres.
Ouais, enfin bon, après, voilà. Moi là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Kevin, je suis désolé de te le dire, hein, mais en fait, j'en ai marre de ce discours un peu stérile de dire regardez l'armoire à trophées, regardez la vitrine à trophées. Ok, la Juventus est un club magnifique avec une âme, avec tout ce que tu veux.
J'ai pas cité la Juve.
Mais moi j'y viens. La Juventus, c'est qui au niveau européen, mis à part les finales, en termes de Ligue des Champions sur le 21e siècle? La dernière fois que la Ligue des Champions a été gagnée par la Juventus, c'était au 20e siècle, à une époque où ils gagnent en finale, au pénalty. Depuis 20 ans, 25 ans, c'est le désert en termes de victoire en Coupe européenne. Donc je te dis juste ça, c'est facile de regarder en arrière, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est aussi avoir un constat et une lucidité sur ce qui est en train de se faire.
On n'est pas en train de te dire, on dirait que j'ai dit que le PSG c'était nul et qu'il gagnerait jamais. Et je t'ai
dit, tu me dis que c'est pas attractif, que les joueurs encore aujourd'hui viennent que pour l'argent.
Je dis qu'ils n'ont pas l'aura des gros clubs historiques qui gardent un attrait.
Et moi, ce que je te dis, c'est que la plupart des joueurs s'en tapent. Voilà. Moi, je te dis aujourd'hui, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est remplir la vitrine à trophées, c'est faire partie des meilleurs. Et aujourd'hui, faire partie des meilleurs, c'est pour moi plus le Paris Saint-Germain sur lequel tu vas avoir plus de potentiel à aller chercher cette Ligue des Champions que d'autres clubs qui ont peut-être une histoire, mais aujourd'hui qui n'ont plus les moyens économiques, financiers, athlétiques, sportifs pour aller de l'avant.
Je suis désolé, tu parles. Oui, Melvin, après je te laisse la parole.
En plus,
mais tu parles de la Juventus en disant c'est le désert. Mais jouer des finales et arriver jusqu'en finale, c'est peut-être pas un trophée, mais c'est un signe, c'est une vraie motivation. Et tu seras le premier, si un jour le PSG arrive en finale, même s'il la perd, à dire ouais, le PSG, on a vu, ils sont arrivés en finale, ils ont les moyens d'aller jusqu'en finale, ils n'en ont pas grand-chose pour gagner. Et tu seras le premier à dire qu'arriver en finale, c'est déjà bien. Et donc, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Moi, j'aimerais bien aussi que la Juve ait gagné en 2003, en 2015 ou en 2017. Mais tu ne peux pas dire non plus, parce que la Juve, elle a perdu 3 finales au 21e siècle, que c'est un club qui est has-been. C'est totalement n'importe quoi.
Je n'ai pas dit qu'ils étaient has-been.
Bah non, mais du coup, tu dis bah non, ils ont plus de chances de gagner maintenant au PSG qu'à la Juve. Mais t'en sais quoi?
Bah moi c'est ce que je ressens.
Bah parce que t'es supporter du PSG et que tu es aveuglé par ta passion pour ce club.
Pas que.
Ouais, d'accord.
Sur RKS 97.00, le combat de coq auquel vous venez d'assister à l'instant entre Pierre et Kevin. Messieurs, on s'éloigne complètement du sujet parce qu'on devait parler mercato.
Ouais.
Par rapport à la situation sanitaire, il y a des énormes affaires à faire. Ouais. Faut savoir que Umtiti est quasiment laissé libre. Stéphane Ruffier, même si c'est pas le plus grand esprit qu'on connaît dans le football français, c'est un super gardien.
Tu passes du coq à l'âne là.
Non mais il parle de mercato, donc il parle des opportunités qu'il va y avoir.
Et ouais, je parle quand même des opportunités parce que justement, vous parlez de la crise sanitaire, il y a des joueurs qui vont être laissés libres et à des sommes à mon avis assez dérisoires par rapport à ces dernières années. quels sont les gros clubs qui ont réellement besoin de joueurs et quelles sont pour vous les bonnes affaires à faire? Est-ce que Umtiti, par exemple, c'est une bonne affaire à faire pour un club?
Umtiti, ce sera une bonne affaire pour un club, j'appelle ça moi les clubs moyens plus ou les clubs juste plus, quoi, les clubs qui jouent les six premières places des 4-5 plus grands championnats. Ça sera une bonne affaire pour ces clubs-là. Ça ne sera pas une bonne affaire pour le Bayern, pour City ou pour la Juve, ou etc. Ces clubs-là qui visent beaucoup plus haut parce qu'ils ne peuvent pas miser aujourd'hui sur un joueur comme Umtiti, aussi bon a-t-il été, que quand tu regardes la dernière année qu'il fait, avec beaucoup de blessures, notamment même les deux dernières années qu'il fait, parce que ce qui le plombe, c'est qu'il joue la Coupe du Monde 2018 blessé. Hein, il a eu raison parce qu'au final, il a gagné. Mais pour le coup, ça le plombe aujourd'hui. Un club aujourd'hui, oui, tu vas pas le payer cher, Umtiti, mais tu vas peut-être pas pouvoir te dire je mets le paquet sur Umtiti en disant ça va être mon titulaire pour gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense que ce sera une bonne affaire pour des clubs, je sais pas moi, l'Atalanta par exemple peut peut-être prendre Umtiti l'année prochaine, Lyon peut-être faire revenir Umtiti, ou j'en sais rien, des clubs comme ça.
Il est pisté justement par Milan, l'AS Roma et le Torino.
Voilà. Donc les clubs qui... Bon, le Torino, je pense que honnêtement, ils se mettent le doigt dans l'œil s'ils veulent arriver à le faire venir. Voilà. Mais l'AS Roma, le Milan, les clubs qui jouent justement la quatrième place, la troisième place, même peut-être la deuxième l'année prochaine, j'ai du mal à le croire, mais peut-être, peuvent peut-être arriver à convaincre Umtiti, et Umtiti peut être intéressé par le projet, mais ça, il pourra pas viser beaucoup plus haut.
Umtiti, il faut qu'il joue des clubs qui vont jouer les phases de poule de Ligue des Champions et qui ne veulent pas figurer, mais oui, pour moi, ce sera pas. Il jouera pas dans un club qui jouera les phases finales de Ligue des Champions.
Il sera comme au Barça, quatrième choix.
Oui, c'est ça. Pour moi, il faut qu'il rejoigne un club comme Marseille, qui a pas forcément un banc pléthorique.
Ah, ça y est. Non, mais là, tu commences à devenir désagréable.
Non, mais c'est vrai.
Melvin, fais attention à ton micro parce qu'on l'entend, quand même pas mal. C'est pas très agréable pour ceux qui nous écoutent, je pense. Excuse-moi. Hein.
Non, mais je t'en prie, tu fais bien. Non, mais je pense que quand même Umtiti, il a quand même une classe internationale. Et qu'il a le niveau de la Ligue des Champions. Alors peut-être pas pour aller à City, peut-être pas pour aller au Bayern, mais maintenant des clubs comme peut-être l'Atlético, comme effectivement Naples, il a largement sa place.
Mais je t'aurais dit oui s'il avait pas eu ces deux dernières années entachées par un million de blessures, quoi.
C'est les pépins physiques en fait qui lui le mettent un peu. C'est comme on pourra y venir aussi un jour. Ce sera le cas d'Embélé. S'il n'arrive pas un moment à se stabiliser et à garder une hygiène de vie suffisante pour éviter de se blesser, il sera amené aussi à quitter le Barça et peut-être à retourner dans des clubs comme Dortmund, comme l'Atlético. Et encore l'Atlético, bon, à chaque fois on cite l'Atlético comme club de seconde zone, mais quand on voit ce qu'ils font sur les dernières années, ils sont
non,
au premier plan.
Oui.
Mais plus des clubs voilà, comme Dortmund, comme. Des clubs un cran en dessous.
Un cran en dessous, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Pierre.
Après, il y a aussi, tu parlais un petit peu de cette rubrique transfert. Moi, il y a un truc là qui c'est assez épidermique qui vient de se passer. La décision de la TAS qui annule l'UEFA, la décision de l'UEFA par rapport à Manchester City. Et tout de suite, plusieurs médias anglais et puis aussi internationaux avancent une somme de 165 millions de débloqués pour le prochain, pour ce mercato transfert.
Je peux vous couper deux minutes. Je pense qu'on peut reparler de ça pour le prono de Ligue des Champions parce que je n'ai pas envie qu'on soit à court de temps. On est déjà plus d'une demi-heure d'émission. On n'a pas encore fait de pause. On a encore deux autres sujets. Si vous voulez, on en parle maintenant ou on en parle au moment du prono, mais il faut se décider.
De toute manière, on va parler des heures et des heures. Je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a aucun respect de toutes les institutions et de toutes les décisions. Et qu'à tout moment, en saisissant un appel par-ci par-là, avec de l'argent, on fait ce qu'on veut. Voilà, moi c'est mon avis, il n'y a pas à débattre.
Oui, c'est vrai qu'on va tous être d'accord, c'est un scandale. Pour moi, le fair play financier a montré toute son inutilité, son impuissance. Alors après, ce qui s'est passé en fait concrètement avec City, c'est que l'UEFA, à travers le fair play financier, a reproché à City d'avoir des comptes pas équilibrés du tout, ce qui est vrai. Le problème, c'est que City a saisi le TAS qui a dit l'UEFA en fait n'a aucune preuve de ce qu'elle avance parce qu'en fait on a des contrats sponsoring qui sont suffisamment forts pour contrebalancer les arguments de l'UEFA. L'UEFA dit oui, mais les contrats de sponsoring sont surévalués. C'est exactement le même format qu'avec le PSG d'ailleurs. Donc les contrats de sponsoring sont surévalués. D'accord. Donc le TAS se retourne vers l'UEFA et dit ok, vous pouvez prouver que les contrats sont surévalués? Non. Bon, bah très bien. Bon, bah, on classe l'affaire. City devra 10 millions d'euros, ce qui est complètement dérisoire. Et City, du coup, peut recommencer à investir. Et j'ai vraiment très peur pour le football du futur parce que si ça donne des bonnes idées au moindre petit club puissant, parce qu'on va aller titiller sur le fair-play financier, c'est très triste parce que ça veut dire qu'en gros il y aura plus de justice dans le football. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Le fair-play financier, c'était peut-être une petite lueur d'espoir qu'on avait pour pouvoir se dire peut-être qu'un jour ça se rééquilibrera ou ça va peut-être aider les clubs à peut-être pas trop tricher entre guillemets avec l'argent. Et au final, bah c'est pas le cas du tout. Et moi, je suis très triste de tout ça.
Allez, messieurs, on va faire notre première pause musicale parce que le temps tourne et qu'on a bien d'autres sujets à étudier, notamment le sujet Cavani. Juste après la pause, vous êtes sur RKS dans le RKS Foot Time Show. C'est la pause musicale choisie par Pierre.
Hasta siempre, que viva la revolución. Rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo serie star estrella. La gente de India me llama star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza. Tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gustas, vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, hijo de África.
Hasta la vista.
Près de l'hacienda où la chica du nom d'Esmeralda faisait la fiesta. Comme par hasard elle me commande une pan chorizo. J'ai compris le complot cuando la fille me dit te quiero. Amigo, dans le barrio on se pavane sec. Sec 6 jours sur 7 et qui n'a pas de prise de tête. Mais ça n'a pas plu à certains pistoleros. Bagarre Ortel Valera devrait être de Villero. Expulsé de la ville, tel un sans pape. Seul, sans barillet, isolé, tel un gâteau sans pape. Quand je pense à toi Rachel, Esmeralda, j'en ai la gorge serrée mais bon, j'ai des valdas.
Hasta la vista.
Hasta la próxima, mi
amor. Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Allez, de retour dans le RKS Foot Time Show. On reprend avec un sujet chaud, 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 avec un invité, puisque nous avons avec nous Frédéric, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Fred.
Ça va, merci.
Bah écoute, salut, salut. Ça va plutôt bien. Et toi, ça me fait plaisir de t'avoir, puisque Fred avait démarré il y a quelques années. Et puis c'est un vrai supporter parisien comme toi, Pierre. Donc je pense qu'il va avoir un œil plutôt avéré sur le sujet. Alors justement, moi j'aimerais qu'on parle de sujet Cavani, qu'on commence. C'est un joueur emblématique, le meilleur buteur du club à ce jour. Et on a l'impression que cette fin est assez triste, est assez chaotique. Fred, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Quel est ton regard justement sur cette aventure de Cavani et sur cette fin qui paraît assez déplorable ?
Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, la musique, elle était pas mal avant qu'on revienne à l'antenne parce que ça disait hasta la vista et donc c'est un peu mon point de vue sur Cavani parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le cas d'école du PSG, Cavani, parce qu'à la fin, on peut faire thèse et antithèse parce que d'un côté, on a le supporter du PSG qui s'était réconforté d'avoir une personnalité comme Cavani l'année dernière. On s'en rappelle, hein, quand Neymar voulait absolument quitter le club, retourner au Barça, etc. Et donc, on avait le fameux côté amour du club grâce à la communication de Cavani. Et puis, de l'autre côté, vous avez la thèse donc qui contredit ce que je viens de dire, avec le côté rationnel et purement business, hein, à froid, hein, ce que apporte Leonardo aujourd'hui au club, et où là, vraiment, il faut passer le club, donc le PSG, avant toute chose. Et moi, c'est un peu mon avis, parce que pour ma part, j'ai toujours été un supporter objectif du PSG. Et l'idée, c'est de faire passer le club avant tout. La seule exception que j'ai faite dans ma vie, c'était Youri Djorkaeff, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Mon idole d'enfance, donc voilà.
Ils étaient pas nés, je te rassure, Fred, ils étaient pas nés.
Il y a quelques années. Mais non, mon avis vraiment sur le sujet, c'est que moi, je fais partie du camp de ceux qui font passer le club avant tout et qui réfléchissent au côté sportif et financier. Et froidement, aujourd'hui, le souci à Cavani, alors il n'y a pas de souci, hein, on peut dire que ça a été un très bon joueur, qu'il a apporté beaucoup de choses au PSG, qu'il a d'ailleurs fait un peu le canard pour être franc, quand il y avait Ibrahimovic, puisqu'on avait deux fortes personnalités au club, au poste de numéro 9. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Un grand bravo, un grand merci. Mais aujourd'hui, la suite du PSG au poste de numéro 9, c'est Icardi, hein, puisque vous le savez tous, il a été signé pour 50 millions d'euros. Donc, je pense que Leonardo, sur ce coup-là, il a une idée en tête assez simple. C'est de ne pas faire la même erreur qui avait été faite quand on avait Ibra et Cavani qui étaient au même poste, deux égaux très surdimensionnés, et donc de laisser la place à Icardi et de partir sur cette idée de 4-4-2 avec donc Mbappé qui est derrière. Hein. Comme vous l'avez vu, Mbappé, c'était sa grosse année à Monaco, ça marchait très bien quand il y avait Falcao devant. Donc je pense que l'idée du PSG, ça va être ça. Et puis moi, de mon côté, comme je vous le disais tout à l'heure, Cavani, encore une fois, énorme respect et grand bravo pour lui, mais j'ai pas énormément de regrets à son sujet. Le seul petit regret, à la limite, ça aurait été de dire, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, qu'il puisse au moins signer la mini prolongation pour finir cette saison qui est tronquée.
Non, mais tu
et
peux
bon,
pas dire
ça,
Fred.
Le cas, donc Fred, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Je suis désolé, tu peux pas dire. Le regret, c'est qu'il ait pas signé cette prolongation. Mais heureusement qu'il l'a pas signé cette prolongation. Le club s'est foutu de lui comme c'est pas permis. Donc c'est faut. Enfin, moi je trouve que je trouve ça triste. J'ai rien contre toi, mais je trouve ça triste, tu vois, d'entendre des supporters qui parlent de Cavani comme ça en disant merci, c'était bien, mais maintenant en fait c'est bon, tu peux partir, c'est pas grave. Enfin non, c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, c'est le seul joueur qui sur lequel tu peux rien lui reprocher sur le terrain et en dehors, et en plus on lui dit c'était bien mais non. Ben non, il n'y a pas de ça en fait. C'est soit effectivement c'était bien mais non, mais un an avant quand tu pouvais lui dire bon bah écoute, on compte pas sur toi, c'est simple, tu peux partir, on va récupérer un petit chèque-os, on rachètera un joueur avec, merci pour tout, et tu lui fais un joli pont d'or pour partir, et surtout tu te fous pas de sa gueule, je suis désolé, parce que lui en fait on lui dit mais non c'est bon, c'est pas grave, reste, c'est bon, et au final tu lui fais faire 3 matchs avec 3 rentrées, et au final tu lui dis bon bah t'es gentil maintenant, mais soit tu re-signes au moins jusqu'au mois d'août pour nous aider, soit tu t'en vas maintenant, mais heureusement
non,
qu'il est parti maintenant.
Mais Kevin,
je sais pas qui intervient.
C'est Kevin.
Kevin. Ouais, non, mais je comprends tout à fait ce point de vue qui fait vraiment débat au sein de Cavani, hein, parce que pour être franc avec toi, j'ai été au stade plusieurs fois au Parc des Princes, et c'est vrai que celui qui a le plus d'amour dans les tribunes, ça reste Cavani. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi être raisonné côté PSG. Alors oui, c'est vrai, Leonardo, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a eu du mal qui a été fait bien avant, hein. Je pense notamment à l'épisode Kluivert en emploi fictif en tant que directeur sportif, à ce qu'a fait récemment Enrique. Donc voilà, peut-être que c'est pas de la faute de Leonardo en tant que tel, et que le
j'ai pas dit que c'était de la faute de Leonardo. J'ai donné aucun coupable physique. Je cible le PSG parce que le PSG c'est pas Leonardo. Faut arrêter de dire le PSG égale Leonardo et Leonardo prend toutes les décisions. Il y a quand même d'autres gens autour.
Je comprends, mais tu sais, je vais être franc avec toi. Il y a le PSG depuis l'arrivée des Qataris. Il passe un peu pour les pigeons et un peu pour le club qui fait tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et moi je vais te donner quelques chiffres, hein, pour vraiment voir ce que, si vous, aujourd'hui, vous étiez à la place de Leonardo ou même à la place des dirigeants du PSG, le dernier contrat de Cavani, les dernières sommes qu'il percevait au PSG, c'était 1,5 million brut par mois.
Ouais.
C'était le quatrième salaire du club, d'accord ?
Ouais.
Neymar, Mbappé, Thiago Silva devant. Thiago Silva, on sait ce qui va se passer avec lui. Il va probablement faire la mini-prolongation et puis on verra ce qui se passe derrière.
Ouais.
Et aujourd'hui, le but sportif et financier du PSG, c'est de signer soit Neymar, soit Mbappé, soit d'avoir les deux, puisque les deux, ils finissent leur contrat en 2022. Donc, il n'y avait aucun intérêt de refaire signer Cavani, qui a 33 ans aujourd'hui. Je vous rappelle une chose.
Mais je ne dis pas qu'il fallait. Mais je dis pas qu'il fallait le refaire signer. Si tu ne comptes pas sur lui, il faut le faire partir. C'est tout, avant.
Juste pour finir sur le dernier chiffre, je suis désolé, après je te laisse la parole. Il y a un ancien dirigeant de Palerme qui s'appelle Rino Focci, qui est intervenu dans la Gazzetta dello Sport récemment, et il a fait part de ce que demandait Cavani pour donc signer dans un nouveau club, puisqu'aujourd'hui il est libre. Faut bien qu'on se rende compte, aujourd'hui Cavani, lui aussi, il fait pas de cadeau comme le PSG, il demande 12 millions d'euros nets par an pendant deux saisons, les gars. Il a 33 ans. Moi, j'ai regardé vite fait avant pour au moins avoir une idée, parce que c'est vrai que quand on parle salaire, on a du mal à voir ce qu'on voit ou ce qu'on lit. Mais aujourd'hui, 12 millions d'euros nets par an pour deux saisons, ça serait le deuxième meilleur salaire de Serie A, juste derrière Cristiano Ronaldo, et le sixième salaire en Liga. Donc, à un moment donné, il faut aussi que Cavani, de son côté, bien qu'il soit très bon en communication et qu'effectivement, il ait fait passer l'amour du club à Naples et au PSG de belles manières, il faut aussi que, de son côté, ben, malheureusement, il se pose la question de son niveau par rapport à son âge et de ce qu'il demande financièrement au club.
Je vais laisser parler Pierre, il a pas encore parlé. Après, faut qu'on conclue. Hein.
Kevin, j'ai l'impression que toi, le PSG l'a traité comme une serpillière pour toi. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais dit déjà la semaine dernière. Donc...
Mais les gars, en fait, tout n'est pas blanc ou noir. Enfin, il n'y a pas de... Là, vous entendre, j'ai l'impression que d'un côté, Fred, il est plus à idéaliser et Kevin, lui, il est en train d'essayer de rajouter du noir sur le tableau. Non, pour moi, ce qu'il faut voir, c'est que Cavani et le PSG, c'est une très belle histoire, une belle histoire d'amour, comme il l'a eu avec Naples, et je suis d'accord avec Fred. La fin, elle est triste. Pourquoi ? Parce que moi, là, dans la continuité de ce qu'on était en train de dire il y a quelques minutes, comment tu fais pour donner une image à un club, une image positive et donner envie aux jeunes de venir ? Mais les gens, ils retiennent quoi ? Ils retiennent l'arrivée et ils retiennent aussi la manière dont ils sont partis. Des Totti qui partent en larmes du club et tout ça, c'est ça qui forge aussi une image et c'est ça qui donne envie aux autres.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, la manière dont Cavani s'en va, c'est perdant-perdant. Cavani sort perdant parce que ça abîme son image.
Totti s'est aussi fait maltraiter à l'AS Rome.
Oui, mais tu vois, mais malgré ça, l'image de la fin, elle est positive, elle est joyeuse, elle est heureuse, et elle est heureuse pour les deux. Parce que là, aujourd'hui, moi, je vois sur Internet, je suis abonné à plein de réseaux du Paris Saint-Germain, avec Paris United notamment, où il y a des supporters de longue date qui sont nés en tribune limite du Parc des Princes, et où derrière, ils sont...
Il y a un service maternité, je crois.
Non, mais où les mecs derrière sont aujourd'hui en train de dire que Cavani a tout gâché. Non, je suis pas aussi extrémiste que
ouais,
ça.
Non,
mais
non,
c'est,
ça, c'est
pour moi, la non-prolongation là, sur les 2-3 mois pour au moins finir la Ligue des champions, c'est perdant pour tout le monde. Je comprends Cavani qui dit attendez les gars, moi pendant le confinement j'ai même pas eu un message du Paris Saint-Germain, même pas eu un appel de Leonardo, et la première prise de contact, le premier retour que j'ai du Paris Saint-Germain, il se fait via la presse avec un Leonardo qui dit que j'appartiens au passé. Donc moi, sous ces conditions-là, eh ben très bien, j'appartiens au passé, ben le Paris Saint-Germain se débrouillerait tout seul. Ça, je peux l'entendre, et d'un autre côté, je peux comprendre que Leonardo, eh ben le club, il est pris à partie par des médias qui disent ben, que le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à Meunier, qu'est-ce qu'il va faire, et c'est important qu'à un moment, il ait ce discours de clarifier les choses, mais là où il y a un loupé, c'est le Paris Saint-Germain qui est un joueur comme Cavani aurait dû prendre le temps de soigner la communication, de le contacter en amont. Et ça, c'est des trucs. Tu peux pas attendre la fin du confinement, putain, pour gérer ta prolongation.
Mais c'est surtout
de contrat.
Que si tu. Si l'objectif en 2019, quand tu fais signer Icardi, c'est de mettre Icardi numéro 1, Cavani numéro 2, la moindre des choses, quand tu t'appelles Leonardo et t'es soi-disant le dieu des directeurs sportifs, c'est que tu vas voir Cavani, tu lui dis écoute, on fait signer Icardi, toi, tu seras le deuxième choix cette année. Voilà. Et ça, il n'y a pas eu.
Ça n'a pas été dit.
Non, ça n'a pas du tout été dit. La preuve, parce que aujourd'hui, il y a une espèce de tension entre Cavani et le PSG liée à ça, parce que je suis sûr que Cavani, il aurait aimé un petit peu de transparence à ce niveau-là.
Non, mais je vais pas dévoiler des secrets des dieux, mais ça a été dit. Et le poste de numéro 9, comme pour le poste de gardien, c'était les principaux soucis du PSG. Aujourd'hui, le poste de gardien, il a été réglé, puisqu'on a arrêté de faire des bêtises à avoir deux faux numéro 1. Et donc, le poste de numéro 9, ben voilà, l'année prochaine, ça sera pareil. On aura Icardi, plus derrière quelqu'un d'autre qui fera effectivement moins d'ombre à Icardi. Et puis voilà, mais en tout cas, j'espère que ceux qui m'écoutent...
Cavani, il a rien fait d'ombre à Icardi de la saison, il a joué 3 matchs.
J'ai rien contre Cavani, attention, hein, je dis encore une fois merci, au revoir, et puis bah effectivement c'était comme ça, mais je pense que il y a d'autres joueurs, et il a été cité, hein, Meunier, ça a été pareil. Il y a Thiago Silva qui était également dans le même cas que Meunier et Cavani. Bon bah aujourd'hui effectivement on a une justice à deux vitesses pour certains joueurs. Et est-ce qu'on va se plaindre? Moi j'ai envie de vous dire, honnêtement, pour être franc avec vous, pas vraiment. Parce que comme je le dis, alors Leonardo, attention, c'est pas un dieu, hein, loin de là, mais j'ai envie que le PSG fasse passer l'institution l'émotion avant tout et qu'on arrête de marcher sur le PSG ou d'avoir des salaires faramineux. Encore une fois, je vous laisse avec cet exemple-là, mais il y a un joueur, moi, qui me fait plus criser, par exemple, que Cavani en ce moment, c'est Draxler. Draxler, en tant qu'intermittent du spectacle, quand vous voyez le salaire qu'il touche au PSG, bah voilà, encore une erreur de la direction sportive ou de Nasser.
Mmh. Oui, mais c'est sûr.
C'est vrai. Le même problème.
Mais il était temps que ça s'arrête, je suis d'accord avec toi, Fred.
Bah oui, surtout bon, si vous voulez, encore une fois, prolonger Neymar et Mbappé, et pas... Alors,
prolonger Neymar...
2021 au 2022, si le PSG n'arrive pas à faire prolonger les deux joueurs et qu'il y a un des deux qui part gratuitement à la fin de leur contrat, là, ça sera gros scandale.
Prolonger Neymar, oui, on va prolonger des joueurs qui n'en ont rien à foutre, hein, et on va faire partir les joueurs
mais
qui auraient
les,
aimé rester.
Les prolonger pour les vendre, Kevin, mais je vais pas t'apprendre ça à toi, t'es obligé. Mais Dybala, il sera jamais là en 2025, Kevin, qu'on se le dise. Dybala, il sera parti l'année prochaine, mais ils l'ont prolongé juste par rapport à l'aspect économique, et tu le sais.
Oui, oui, d'accord.
Kurzawa, c'est le même principe.
Exactement.
Bon, messieurs, merci Fred pour ton intervention.
Mais de rien.
Merci Fred.
On va clôturer ce sujet sur Cavani, qu'on roule et avec des avis partagés, mais c'est ce qu'on recherche hein, justement dans notre émission. On va passer sur un autre sujet sur lequel, à mon avis, c'est pareil, ce qui fait débat. C'est le sujet de Griezou, messieurs, Antoine Griezmann, qui est chahuté depuis son arrivée au Barcelone, une arrivée qui ne s'est pas faite dans les meilleures conditions. Un état d'esprit différent des clubs qu'il a connus avant. Pierre, je sais que tu as un avis assez tranché sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais. Griezmann, pour moi, c'est... Alors déjà, j'apprécie le personnage parce que dans ce milieu un peu de tous ces mecs qui se regardent jouer, il sort, il est frais, un peu à l'image de ce qu'il a fait pendant le confinement, à jouer à Twitch, sort des jeux avec des gamins et tout. C'est un mec qui est accessible, donc rien que pour ça, je le respecte et je l'aime bien. Après, pour moi, c'est une erreur de casting du Barça, mais c'est voilà, une relation qui aurait jamais dû s'écrire. Pour moi, Griezmann, il a trompé, entre guillemets, son amour de toujours qui était l'Atlético Madrid avec le Barça, qui pour moi n'est pas le club aujourd'hui qui le permet de s'exprimer tel qu'il devrait s'exprimer. À l'image de la Coupe du Monde, Griezmann, c'est un besogneux, c'est un mec qui est un peu comme Cavani d'ailleurs, mange la pelouse et va tout donner pour son club. Mais je me rappelle de la victoire contre la Belgique où il dit, en arrivant dans le vestiaire, ça c'est des victoires à l'Atlético, ça c'est la famille, on a planté le but et on a fermé la maison, merci les gars, et on est là. Et tu vois, pour moi, ça, c'est une mentalité à la Griezmann. Dans ce jeu-là de virtuose, de mecs qui se regardent jouer, d'un Messi qui se regarde les pieds, d'un Suarez qui pense qu'à lui. Tu vois, pour moi, Griezmann, non, là, aujourd'hui, il est dans le regret. Il sait très bien qu'il a quitté quelque chose parce qu'il était un moment de sa carrière qui était un moment clé. Champion d'Europe avec l'Atlético, champion du monde avec l'équipe de France. Et il n'avait pas envie de passer un cap et d'arriver dans un top, top club. Mais pour moi, le Barça, ce n'était pas le club dans lequel il fallait aller. J'aurais préféré le voir dans des équipes comme Liverpool, par exemple, qui pour moi, rien qu'au niveau de l'entraîneur, Griezmann, quand tu regardes le lien qu'il avait avec Simone, le lien qu'il avait avec ses anciens entraîneurs et agents, Griezmann, il a toujours eu besoin d'avoir un coach papa, d'avoir quelqu'un de paternaliste, oui, de bienveillant, oui, avec lui pour le mettre en confiance. Et pour moi, le Barça, c'est erreur de casting à tous les niveaux, mais c'est pas le seul. André Gomes, Song, Coutinho, Malcolm. Et il y en aura d'autres. Et Griezmann, aujourd'hui, malheureusement, est aussi victime de tout ça. Et puis après, bah, les gars, je vais vous laisser voir ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, c'est une déception. Et j'espère qu'une chose, Kevin, toi, c'est qu'il partira vite.
Mon point de vue, c'est que je pense que c'est pas un problème Barça. C'était pas le bon moment pour aller au Barça. Parce que tout le monde se casse les dents ou presque sur le Barça en ce moment. Parce que c'est pas stable. L'entraîneur n'est pas stable. Tant qu'il n'y aura pas à nouveau la philosophie Barça. Au niveau de l'entraîneur, que ça transpirera sur tout le niveau du club et que Messi arrêtera de faire le parrain dans le vestiaire. Je pense qu'on ne reverra pas le Barça au sommet de l'Europe de sitôt. Donc pour moi, le Griezmann, c'est à pas rejoindre le Barça au bon moment, ou alors il ne fallait pas rejoindre le Barça du tout, parce que pas dans ce Barça-là. Dans le Barça, à la limite de Guardiola, peut-être, mais bon, il n'était pas à ce niveau-là avant. Mais voilà, moi je pense que Griezmann, il paye aujourd'hui surtout aussi sa communication qui est ridicule depuis, depuis pas mal de temps. Son histoire de prolongation à l'Atlético, à la veille de la Coupe du Monde, avec son espèce de documentaire. Là.
Ouais, mais ça, Kevin, c'est de la com. C'est de la com.
C'est de la com, mais c'est de la com. C'est de la mauvaise com. On a le droit de dire que c'est de la com et de la mauvaise. Enfin, je suis désolé.
La com de merde, c'est ce que tu veux dire.
Voilà,
c'est de la com de merde.
De la com de merde. Donc, c'est de la com de merde qui, du coup, a fait passer un petit peu le Barça pour un club moyen, ou enfin pas en tout cas pour le club que c'est au niveau historique et au niveau de l'importance et la puissance de ce club-là. Donc il paye aujourd'hui dans le vestiaire cette mauvaise communication, et je suis content qu'il la paye parce que ça lui apprendra peut-être à faire autrement la prochaine fois qu'il veut rester dans un club et refuser l'offre d'un autre.
C'est des professionnels, Kevin.
Et alors ?
C'est des professionnels, les mecs.
Et alors ?
Moi, je suis fan du Barça, mais des mecs comme Messi, comme Suarez, qui sont les meilleurs joueurs du monde, ils doivent tout faire pour mettre à l'aise un joueur de classe mondiale pour que leur équipe elle tourne bien.
Oui, mais il faut que le joueur, quand il arrive, il fasse un minimum patte blanche quand même, non ? Enfin, je sais pas, t'arrives pas en disant.
Fasse patte blanche, c'est si... une chose.
Ouais.
Là, mais ils en ont besoin sur le terrain.
Ouais,
un joueur comme Grisou à son.
Alors qu'il le fasse aussi longtemps, je suis d'accord. Qu'il le fasse aussi longtemps, c'est pas normal.
Voilà.
Mais je suis content qu'il ait payé un petit peu ça quand même. La prochaine fois, il arrivera proprement. C'est tout.
Ouais, de toute manière, c'est comme tu l'as dit, c'est un club qui tourne pas rond depuis quelques
années. Non, mais
années.
C'est sûr. Mmh.
C'est pas stable. Et malheureusement, c'est ce qui joue préjudice à beaucoup de joueurs, notamment là-bas.
Et ouais. Melvin, d'ailleurs, dans la continuité de tout ça, parce qu'avec Kevin, là, on vient d'échanger sur le Griezmann avant et pendant, et moi, j'aimerais t'entendre sur le Griezmann d'après. On voit que Suarez est en train de dire « j'espère qu'il va rester ». Beaucoup de joueurs dans le vestiaire commencent à dire « on veut Griezmann pour l'année prochaine ». Là, en ce moment, c'est quasiment fait, ça avance. Lautaro Martinez devrait débarquer au Barça. Encore un poste un peu qui peut se rapprocher d'un Griezmann ou d'un Coutinho, avec Dembélé qui va revenir l'année prochaine, avec Suarez qui est toujours là au niveau sur qui il faut compter. Messi, à un moment, c'est quoi cette histoire ? Enfin, Griezmann, est-ce que c'est pas le bon moment pour lui de partir et d'admettre qu'il s'est trompé ?
Ah, mais moi honnêtement, mon avis, c'est que Griezmann, il a sa place au Barça, il n'y a pas de problème. C'est que maintenant, avec l'esprit qu'il a et comment ça se tourne au Barça, moi, je suis Grisou, je pars. C'est le moment de partir, justement. Il a 28 ans, il est encore jeune, il peut vivre de belles années, jouer des Ligues des Champions.
Il peut quand même attendre de voir si Setién reste, hein, par contre. Hein. Moi, je serais lui, si Setién est confirmé pour
c'est ce que j'allais dire.
La saison prochaine, je me dis, bon, bah, je me barre. Si c'est Xavi qui arrive et que Xavi a le discours de dire, moi, je compte sur Griezmann, bon, bah, à ce moment-là, il peut tenter.
Et même avec Martinez qui arrive.
Martinez, c'est pas le même profil, c'est un 9, il fera plus de mal à Suarez qu'à
Griezmann. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je vais sur le côté. Il peut jouer dans l'axe, c'est pas un problème.
Non, mais vous avez vu Griezmann
maintenant,
à gauche.
Je suis d'accord
là,
avec Kevin, c'est une question d'entraîneur.
C'est ça.
C'est une question d'entraîneur.
Et puis de module, comme il vient de dire Pierre tout doucement, mais il l'a dit, mais c'est aussi une question de module. Hein. Griezmann, il est jamais aussi bon que quand il joue derrière l'attaquant, hein, pas sur le côté.
Complètement.
Allez, on passe.
Messieurs, on va clore le sujet parce que Grisou, c'est pareil, on pourra en parler des heures. Il y a une actualité de cette semaine qu'on peut pas éviter, qu'on a envie de s'éclater dessus. C'est le tirage de la LDC. On va faire nos pronostics. Un tirage avec, j'ai envie de dire, un chemin tout tracé. Pour le PSG, pour aller jusqu'en finale, hein, je mets des bémols, mais c'est plutôt un tirage favorable. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, sincèrement, pour moi, bon, le Paris Saint-Germain va arriver normalement au final si tout se passe bien. Bon, le Paris Saint-Germain sort d'un 9-0 face au Havre, mais bon, le Havre, c'est pas la Juventus Nap comme a pu faire ces derniers matchs.
C'est le U19, ouais. C'est le U19 de Bonsoir-en-Cours à un moment donné. Non,
exactement. Donc, faut comparer ce qui est comparable. Je le dis, je le redis à chaque fois. Mais bon, non, mais d'accord, on va clore sur le Havre. Mais comme je le dis souvent, et Kevin, parfois, ça lui file des boutons. Aujourd'hui, cette année, le Paris Saint-Germain a le meilleur effectif au monde. À l'heure actuelle, au moment où on se parle. Moi, ce qui va être important et prépondérant pour la suite, c'est savoir dans quel état physique, dans quel état d'esprit le Paris Saint-Germain va arriver. Et si le Paris Saint-Germain sort l'Atalanta, il devrait pouvoir se hisser facilement en finale. Mais pour moi, il ne gagnera pas cette année. Et pour moi, le champion, parce que c'était ça un peu le but, c'était d'avoir le pronostic. Le pronostic, pour moi, c'est le Real de Madrid, qui était sur 5 matchs en but, qui en a pris un seul. Mais ça reste aujourd'hui un club monstrueux à ce niveau-là. 9 victoires de suite, une puissance... que ce soit en termes de gardien, on a retrouvé un Courtois qui était pour moi le gros point noir du Real cette année. Benzema qui a pris le relais de Ronaldo et Ramos qui est dans la forme de sa vie, qui est le meilleur défenseur au monde. Pour moi, je vois le Real cette année reprendre son titre parce qu'on peut le dire comme ça, hein, vu ce qu'ils ont gagné ces dernières années. Real sera le grand favori et moi, pour moi, la finale, c'est Real PSG cette année. Voilà.
Bon, ouais. Kevin, et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Bon,
moi, je suis pas d'accord avec Pierre.
C'est pas possible, ça, chose. Melvin. Melvin, c'est pas possible.
C'est vrai, mais normalement, c'est Kevin qui est pas d'accord avec
non,
Pierre.
Non, mais moi, le Real, bien sûr. Ouais, donc comme je disais, moi, pour moi, le Real sera forcément favori parce que c'est le Real et parce que le Real a fait de cette compétition une véritable religion et tant qu'il y a Zidane aux commandes, ça sera forcément.
Et ça ferait quand même 4 Ligues des Champions.
Ouais.
En 5 ans, hein. Ça
ouais, mais c'est possible. Hein. De toute façon, avec ce Real-là, il y a tout qui est possible. Après, il y a le Bayern et City aussi, pour moi, qui sont tout aussi impressionnants. City, parce qu'ils peuvent sauver leur saison. Le Bayern, parce que depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, ça va beaucoup mieux. Et c'est l'équipe qui envoie, pour moi, le plus de signaux positifs avec le Real. Après, je vais faire une petite parenthèse sur la Juve, qui, je vous le confirme, ne sera pas champion d'Europe, pour ceux encore qui en doutaient, même si je sais que Pierre n'en fait pas partie.
Ils ne vont pas passer les 8e, de toute manière. Donc, ils ne vont pas être champion d'Europe.
Mais ils ne seront pas champion. Ils ne seront pas champions d'Europe parce que y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette équipe. Moi, je ne m'explique pas les problèmes qu'il y a en ce moment. On a vu encore, il y a un match contre l'Atalanta où tu mènes 2-0.
Pas l'Atalanta.
La Sassuolo, pardon. Tu mènes 2-0 au bout de 20 minutes de jeu et puis tu te fais reprendre 2-1, 3-1. En plus, en jouant vraiment de manière vraiment très triste. La Juve, elle a quand même concédé 17 tirs en une mi-temps. C'est, je crois que c'est hier Simone Rovera sur RMC qui avait donné l'info. Ça, c'était pas arrivé depuis 2004-2005 de prendre 17 tirs en une mi-temps pour la Juve. Donc c'est absolument énorme. Donc pour moi, il y a trop de problèmes dans cette équipe. Même s'il reste encore un petit mois pour préparer le retour contre Lyon, ça peut peut-être passer contre Lyon, mais pour moi, je vois une équipe beaucoup trop fébrile, beaucoup trop incertaine. Même si à CR7, ça peut pas tout faire. Et au milieu de terrain, c'est pour moi le plus gros chantier de cette Juve cette saison.
Melvin, toi qui as osé dire que tu n'étais pas d'accord avec Monsieur Pierre, on va t'écouter alors.
Bah écoute, moi j'ai du mal à croire que le Real Madrid puisse remporter 4 titres de Ligue des Champions sur les 5 dernières. Même si c'est vrai que depuis le retour d'Izou, ils font un énorme boulot. Karim Benzema, Sergio Ramos qui sont à leur apogée. Je les vois pas gagner. Il y a un club pour moi qui fait pas de bruit cette année, qui a repris le championnat bien plus tôt que les autres et qui me semble bien affûté avec un effectif qui est costaud, un bon entraîneur, c'est le Bayern de Munich. Moi je vois une finale effectivement entre le PSG et le Bayern de Munich. Maintenant, attention, la Ligue des Champions peut nous réserver des surprises.
Surtout
et j'ai envie de dire que si le PSG ne passe pas, pour moi c'est l'Atalanta qui rentre en finale.
Ouh.
Et quand je les vois, hein, vous avez vu, hein, la Juve est en train de subir la pression de l'Atalanta, de la Lazio. Voilà, je vois fort l'Atalanta qui peut créer la surprise cette année.
Ouais.
Voilà mon avis, messieurs.
Ouais, après moi, je vais pas donner de favori ni de outsider au match PSG Atalanta parce que oui, l'Atalanta marche sur l'eau en ce moment. À contrario, le PSG, s'ils sont dans la bonne forme physique, l'Atalanta n'a aucune chance. Mais le problème du PSG, c'est qu'il y a aucun match, aucun rythme. Depuis trop longtemps, ils auront bon joué les matchs amicaux contre qui ils veulent jusqu'à un match contre l'Atalanta. Un match amical, c'est jamais significatif et il faut jamais s'en servir comme base pour analyser un futur match officiel. Donc,
d'autant plus que là, on n'est pas sur un match aller-retour.
Ouais, c'est ça.
On est sur un one shot. On est sur un one shot. Un match de Coupe de France.
Et puis c'est surtout que depuis le début de l'année, l'Atalanta a perdu un seul match, messieurs. C'était le 20 janvier contre Spal 2013. Dernière défaite de l'Atalanta depuis, que des victoires et des matchs nuls. Attention.
Attention.
Messieurs, on a fait nos pronostics. On va bientôt clore cette émission. Mais avant, on a fait un petit rituel. C'est notre quiz du
attention.
On va essayer de pas perdre de temps parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre. Hein. C'était une mission très particulière.
Le perdant de la semaine. On va pas perdre de temps. Moi, je suis là pour gagner.
Moi, c'est pareil.
Ce serait une formalité.
Hop, et on n'entend plus Melvin. Voilà.
je suis là. Vous m'entendez?
Mais c'est bon.
Bon, Pierre, allez, vas-y, parce que
donc,
je suis
c'est le moment du
Caprice,
quiz. C'est le moment du quiz. Amusez-vous aussi, hein, auditeurs, à essayer de jouer avec nous. Hein. Profitez et puis envoyez-nous aussi vos résultats. Essayez d'être objectif, ne pas mentir.
C'est ça. Allez.
Donc, alors, la première question, messieurs, c'est une phrase, d'accord, donnée par un joueur de football qui a dit cette phrase. Donc j'aimerais que vous me donniez son nom, s'il vous plaît.
Allez, vas-y. Vas-y.
Et en plus, j'aime beaucoup cette phrase.
Allez, vas-y.
Les Anglais ont inventé le foot. Les Français l'ont organisé. Les Italiens le mettent en scène.
Éric Cantona.
Oui.
Ah, mais...
C'est la mise en scène qui a fait Mouche.
C'est très drôle parce qu'il ressort. Non, je vais rien dire.
C'est Morico.
On y va.
Bon, messieurs, deuxième question. 1-0 pour Melvin. Donnez-moi, messieurs, le nom du club et l'année du dernier sacre d'un club portugais en Ligue des Champions.
Porto 2004.
Oh
2001.
Non, 2004.
2004, c'est Kevin. Ouais.
Oh là là, bravo. Go avec à sa tête Mourinho.
On sent que Kevin était remonté de la première question.
Allez. Ah non, on sent surtout que Kevin, il est aux manettes, que moi j'ai pas eu le droit au goal et que lui, il y a le droit.
Toi t'as le droit à ça.
Ah là, d'accord. Allez, troisième question.
Allez, troisième question pour savoir qui va repasser devant. Qui suis-je ? J'évolue actuellement en deuxième division anglaise. Je mesure un petit mètre 80. 76 pour être exact. Je suis anglais. Attaquant réputé.
Alan Shearer. Non, il joue plus.
Non.
Attaquant réputé pour mes buts d'exception et ma puissance. Ouais. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs titres de plus beaux buts de l'année, mais pas en deuxième division anglaise. C'était bien en première division, car la deuxième division n'est qu'une un moyen pour moi, une manière d'aller progressivement vers ma retraite.
Oh. Dirk Kuyt, non.
Je suis actuellement et toujours à la fois le meilleur buteur de tous les temps de la Première Ligue et de l'équipe d'Angleterre.
Wayne Rooney.
Oui.
Ah putain.
Allez, mets le but là, Kevin.
Allez, 2-1.
Allez.
Bon, les gars. Petite question que j'aime beaucoup, celle-ci.
Ouais.
Dans le Big Five, quelle est la meilleure défense de l'année 2019-2020 ?
Atlético.
Non.
Liverpool.
Presque.
City.
Manchester City.
Non.
Leicester.
Tottenham.
Non.
Arsenal. Manchester United.
Non.
Le Real.
Le Real.
Eh oui.
Le Real.
Goal. Oh. J'adore.
Le Real de Madrid, là. Messieurs, quand même, pour la petite statistique, pour dire qu'il était pas loin quand même, faut être fair play, Melvin. Le Real cette année a encaissé 0,70 buts par match, devançant Liverpool 0,72 buts par match.
Aïe.
Et celui qui me trouve là rapidement en 2-2, le troisième club, je l'invite à manger.
Dans le Big Five ?
Ouais. Vous avez deux essais chacun.
L'Inter.
Non.
Le PSG.
Non. Kevin, il est out.
Lille.
Non.
Ouais, c'est bon.
Allez, dernière, Melvin.
Angers.
Non, c'était le Stade de Reims. Troisième meilleure défense de la saison régulière 2019-2020, les gars.
Stade de Reims, d'ailleurs, une info au Stade de Reims, il y a Alexis Romao, l'ancien grenoblois, qui vient de résilier son contrat.
Ah merde.
Ouais.
Allez, dernière question, les gars, elle est importante. Parce que on est à 2-2, les gars. 2-2. Donc, cette question sera décisive. En quelle année le football a-t-il officiellement été créé ?
Mais Melvin, tu lâches ton téléphone, je te préviens.
1903.
Non.
Avant.
Non, 1890.
1898.
Avant.
1895.
1896.
Non. Avant. C'est pas le juste prix, les gars.
1880.
Après, avant, Kevin.
1870.
1876.
1840.
Après.
1850.
1855.
Après. 1860.
Après
1865.
1866.
Avant 1864.
Avant
1863.
Ouais.
Allez, là, j'arrive pas dans
Ouais, j'ai gagné.
En Angleterre, oui, création officielle.
Ah, ça y est, mais jamais de la vie. Rien du tout, les champions, mais alors. Je vais aller vérifier sur Wikipédia. Attention, après,
excuse-moi, je vais rejoindre mes supporters. Merci.
Victoire de Kevin, c'est donc moi qui vais préparer.
Non, je vais le faire, je vais le faire la prochaine fois. Sinon, c'est pas juste, vous allez jamais gagner.
Heureusement que c'est la fin de l'émission parce que j'en peux plus. Je suis fatigué.
Ouais, allez, c'est parti.
Bon, messieurs, merci encore pour cette émission.
Merci à toi.
On se retrouve lundi prochain à 19h
ouais.
sur RKS
ouais.
Avec encore plein de surprises et plein de sujets dans le RKS Full Time Show. Messieurs, on reste à l'écoute sur le 97.00 et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.
Allez, bisous, à bientôt.
À toi aussi,
bye bye,
salut, ciao.
Bisous à tous, ciao, ciao.
Le RKS Full Time Show. Ils aiment le foot, ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.